puce à l'oreille.
Promouvoir la biodiversité de proximité.
Dans une des dernières chroniques, tu nous as parlé de nettoyer donc les nichoirs à l'automne et qui pouvaient servir entre autres aussi à héberger certains insectes, dont le fameux vulcain. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu mieux de ce vulcain qui est un papillon, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors c'est un papillon qui n'a rien à envier à son cousin américain migrateur qui s'appelle le monarque, dont on a tous des images.
Ah oui, le grand
voilà,
là.
Voilà, c'est ça, où ils sont en très grand nombre. Pour migrer. Notre vulcain à nous, donc notre monarque européen, il va migrer du sud de l'Europe jusqu'à la Scandinavie. Alors il ne le fait pas en une génération, il le fait en trois générations. Et en fait, cette migration, elle suit le développement de l'ortie. Parce que l'ortie, c'est la plante hôte de ses chenilles. Les chenilles du vulcain ne mangent que les orties.
Ah ouais.
D'où le fait, on a déjà vu, qu'il ne fallait pas trop nettoyer le jardin et puis laisser un petit coin avec des orties. Mais on en reparlera après. Donc la première génération de vulcains, elle part du sud de l'Europe, de l'Italie entre autres, et elle va monter jusqu'à l'Europe centrale, donc jusqu'à chez nous. À ce moment-là, il va y avoir une deuxième génération qui va éclore sur les orties, qui va se transformer en papillon et qui va tout de suite partir pour la Scandinavie.
Mais les papillons, ils ont combien de durée de vie ?
Ah, les papillons, ils peuvent avoir...
Quelques jours ?
Non, plus que ça. Ouais, ça
ah,
c'est,
ceux-là, ils sont plus...
Voilà, il y a quelques espèces qui ne vivent que quelques jours, mais beaucoup, en fait, ont une vie quand même relativement longue.
Ah, ok.
Et donc là, la troisième génération, elle
va partir de la Scandinavie.
Elle va arriver en... Donc, quand la deuxième génération arrive en Scandinavie...
Ah, j'aime bien t'embrouiller.
Hein. Tu m'auras pas. Elle va pondre. Ça va donner une troisième génération. Et cette troisième génération, elle, par contre, elle va parcourir 3000 km en à peu près 15 jours pour redescendre. Donc, il faut deux générations pour monter, mais il n'en faut plus qu'une pour redescendre.
Ah,
parce
ouais.
qu'en fait, les conditions vont très vite se gâter, conditions météo. Donc, il faut redescendre au plus vite.
D'accord, donc tout ça en une année, on est d'accord.
Oui,
trois générations sur un an et elles font au moins 15 jours.
Sur une belle saison.
Sur une belle saison.
On va avoir trois générations de papillons qui partent de l'Italie, qui montent
fou.
En Scandinavie, qui redescendent
ouais.
en Italie. En Italie ou au sud de l'Europe.
Waouh, donc quand ils viennent se déposer sur nous, c'est vraiment, on a fait un sacré dépaysement.
C'est ça. Et on a un phénomène de migration altitudinale qui est similaire à cette migration latitudinale. C'est-à-dire que le développement de l'ortie, quand tu pars des vallées et que tu montes en altitude, il y a un échelonnement et le développement du vulcain se fait de la même manière. C'est-à-dire qu'au tout début de l'été, les vulcains sont plutôt en vallée et puis ils vont remonter jusqu'en altitude. Et la dernière génération, elle va redescendre jusqu'en bas pour éviter les mauvaises conditions de l'hiver.
D'accord, et en suivant le cycle de l'ortie.
C'est ça, en suivant le cycle de l'ortie, oui. Donc l'ortie, c'est la plante hôte de la chenille. La chenille va se nourrir que de l'ortie. D'ailleurs, on fera aussi une chronique sur l'ortie, parce qu'il y a énormément d'insectes qui en dépendent, et comme il y en a de moins en moins, c'est un peu compliqué. Et l'adulte, lui, par contre, le papillon, il est nectarivore. Donc il va se nourrir soit de fruits, un petit peu avancés, soit de nectar, des fleurs qu'il va butiner. Mais certains ne migrent pas, et c'est là qu'on rejoint l'idée des
c'est
nichoirs.
C'est un nichoir, ouais. Où
donc
ils
hivernent. Ils hivernent à l'état d'adulte. Donc c'est quand même assez impressionnant hein, quand on voit un papillon, la légèreté que ça a, et se dire que ça va dans un nichoir, c'est un peu à l'abri, mais quand même, quand il fait moins 10, il supporte. Donc il hiverne dans des nichoirs ou dans des caves, dans des greniers, dans des troncs creux. Et ces papillons, c'est souvent ceux qu'on observe très tôt au printemps. En fait, au printemps, quand on voit très rapidement des vulcains, ce n'est pas ceux qui arrivaient du sud de l'Europe, c'est ceux qui ont hiverné chez nous. Et ils sont de plus en plus nombreux. C'est ce qui fait penser que le dérèglement climatique joue sur la migration du vulcain. Ils seraient de moins en moins à migrer, restant plutôt sur place pour supporter l'hiver.
D'accord. Du coup, si on voit des sortes de cadavres de papillons, il ne faut pas les toucher. Ça se trouve, ils sont juste en train d'hiverner.
Un papillon posé, immobile, dans une cave, dans une grange, c'est un papillon qui est vivant. Donc
ouais.
il ne faut pas y toucher, il faut le laisser tranquille. On peut même donner un petit coup de pouce au vulcain, si on veut continuer de pouvoir observer ces migrations de papillons. en laissant, ce qu'on l'a dit, hein, une bande d'orties pour le développement de la deuxième génération, quand ils ont tendance à remonter, parce que s'ils ne trouvent pas d'orties, on bloque le cycle à ce moment-là. Et puis laisser des plantes à fleurs l'automne pour le ravito de la troisième génération. Donc quand ils descendent à fond, la troisième génération, là, de Scandinavie, ils vont jusqu'au sud de l'Europe, il faut quand même qu'ils mangent de temps en temps. Et c'est la bonne idée de laisser donc dans le jardin des asters, qui sont des fleurs qui sont encore en fleurs actuellement. Le lierre, on en a déjà parlé, que c'était une plante très intéressante parce qu'elle fleurit au moment où il n'y a pas beaucoup d'autres fleurs. Et puis les fruits pourris, si vous avez un petit endroit relativement dégagé, un mur, un endroit un petit peu chaud, et que vous avez des fruits un peu gâtés que vous n'allez pas manger, ouvrez-les en deux, posez-les là, et vous ferez peut-être le bonheur des papillons vulcains qui sont de retour pour le sud de l'Europe.
Et une question bête, mais à quoi ça ressemble du coup un papillon vulcain ?
Alors le vulcain, il est relativement sombre, avec du noir, du blanc et du rouge. Et pour le reconnaître, quand il est posé et qu'il a les ailes bien ouvertes, il y a des taches oranges sur ses ailes antérieures qui rejoignent les taches oranges sur les ailes postérieures. Ça fait comme un rond, comme un cratère qui ressemble à un volcan. Et c'est pour ça que volcan, vulcain, ça se ressemble. Donc c'est un moyen mnémotechnique pour retenir.
Ah ouais, plus la période d'Halloween avec la notion d'orange,
c'est ça.
C'est parfait.
Impeccable, il va pile poil dans le décor.
Et les fruits pourris.
Et la chenille aussi, hein, même si on ne peut pas l'observer à cette époque, elle est complètement dans le décor d'Halloween. Elle est toute noire avec des petits picots, pas des poils, hein, mais vraiment des petits picots qui dépassent un peu partout. Et elle se retrouve en groupe. Donc quand dans les orties, vous voyez un espèce d'amas tout noir avec quelques chenilles qui en sortent, bien souvent c'est des vulcains.
Ok. Et comment les papillons ensuite se déplacent alors ?
Alors, il a différentes techniques de vol pour la migration. S'il se trouve que les vents sont contraires, il va avoir tendance à voler très près du sol pour éviter justement ces vents. Mais il aura un peu de mal quand même à se déplacer vite. Il va tout de même faire 100 km en une journée, donc en grosso modo 15 km/h. Alors que si les vents sont favorables, il va monter très haut en altitude. On en a croisé à 4000 mètres d'altitude. Et là, il va pouvoir faire, en se laissant emporter, 400 km par jour. Et donc, à une vitesse moyenne de 50 km/h.
Waouh, c'est incroyable. Et ils sont en bande, c'est une nuée de papillons, souvent.
Alors, c'est moins flagrant que le monarque, où vraiment, ça fait des nuages complets. Les vulcains sont plus solitaires, un peu plus solitaires.
Eh bien, du coup, ça demande à une observation du ciel. Donc là, à l'automne, on peut les voir, en fait.
On peut les voir. Ce qu'on va voir surtout, c'est quand ils vont s'arrêter pour se ravitailler. Mmh. Ou là, par exemple, sur des lierres, tu peux en voir plusieurs dizaines en train de se nourrir et pour repartir de plus belle.
Eh bien, à vos appareils photo.
Voilà.
Vous venez d'écouter La Puce à l'oreille,
la chronique biodiversité de Radio Alto.
Retrouvez-la en podcast sur le site radioalto.info
et sur le site colocataire.com. Terre, T-E-2-R-E.